place au dossier de Radio Okapi. La section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO a remis hier lundi 30 kilos de médicaments à la prison centrale de Kananga. Nous sommes là au Kasaï central. Ces dons est constitué d'antibiotiques, des sérums physiologiques et d'autres produits de première nécessité. Un dossier de Karine Ndamusontole.
Cet appui est apporté après plusieurs doléances dans cette maison carcérale qui manque de médicaments pour les détenus malades, a indiqué le responsable de la section d'appui à l'administration pénitentiaire. Ces produits pharmaceutiques ont été remis au responsable de la prison centrale de Kananga. Interrogé, l'une des prévenues livre ses impressions.
Je trouve que c'est un bon geste, mais nous voudrions que l'on nous donne des médicaments qui peuvent nous soigner. Ici, à chaque fois que quelqu'un tombe malade, on lui donne que le paracétamol pendant que ce médicament ne soigne pas toutes les maladies. Au dispensaire de la prison, constate-t-on, les malades sont reçus dans une petite salle où l'on ne trouve que quelques bancs. Il n'y a pas de lit pour eux. Certains parmi eux s'assoient à même le sol, d'autres consultés de manière ambulatoire. Le médecin directeur de la prison centrale de Kananga, le docteur Jean-Paul Moulamba, nous parle des cas récurrents de pathologies enregistrées à la prison et des difficultés rencontrées.
Ici, c'est plus, nous avons en premier lieu les paludismes, suivi de maladies diarrhéiques, les IRA, la malnutrition, les IST et aussi la tuberculose, pour ne citer que cela. Et aussi, le grand problème, c'est aussi l'approvisionnement, comme l'avons dit là, médicaments. Il y a souvent des ruptures. Bon, d'emblée, de manière générale, il y a des pathologies que nous prenons en charge ici à un certain niveau. Lorsque nous trouvons que c'est nécessaire et que nous ne parvenons pas à les prendre correctement ici en charge, nous sommes souvent obligés à transférer les malades vers l'hôpital général, les hôpitaux de l'État.
Pour sa part, le ministre de la Justice a salué l'action de la MONUSCO et a exhorté le personnel soignant à utiliser ces médicaments pour l'intérêt des pensionnaires de la prison de Kananga.
La province estime qu'elle peut continuer à compter sur ses partenariats pour pouvoir aider la prison centrale de Kananga qui a assez de difficultés, notamment en desserte en eau, mais aussi en réhabilitation de certains docteurs. Je voudrais à l'occasion exhorter les corps soignants à ne utiliser ces médicaments que pour l'intérêt des prisonniers pour qui nous nous sommes déplacés à ce jour.
Le chef de bureau de la MONUSCO Kananga, Charles Frisby, a également salué cette initiative et l'implication de la direction de la prison pour ce partenariat. Il assure que la MONUSCO continuera à faire des efforts pour multiplier ce genre d'actions. La prison centrale de Kananga a été construite en 1951 pour une capacité d'accueil de 300 détenus. Elle compte actuellement 807 détenus, parmi lesquels 620 détenus préventifs, 178 condamnés et 9 enfants en conflit avec la loi. Kananga, Karine Damousso, Radio Kapi.
L'invité. Une crise alimentaire menace la région du Kasaï où 250 000 enfants pourraient mourir de faim dans les prochains mois, provient le chargé de nutrition du Programme alimentaire mondial PAM-RDC, Patrice Badibanga, s'entretient à ces sujets avec François Kadima.
Monsieur Patrice Badibanga, bonjour.
Bonjour.
Le PAM a récemment alerté l'opinion sur la crise alimentaire en RDC. Alors, quelle est la situation au Kasaï?
La situation alimentaire au Kasaï, elle est actuellement alarmante parce que la population a perdu des saisons agricoles et n'a pas pu travailler à cause de la crise commune que tout le monde connaît. Et de cela, il y a eu 62% de ménages qui ont raté la campagne agricole la plus récente de 2016-2017. Cela a entraîné la baisse de la production en moyenne de 17% pour le maïs. Vous le savez, c'est la principale culture et c'est l'aliment de base dans les Kasaï. Et cela a entraîné qu'il y a aujourd'hui 52% de ménages qui ont une consommation alimentaire inadéquate. Donc, plus de la moitié des ménages ne mangent pas bien. Et la classification de la sécurité alimentaire qui a été faite au niveau du pays en juin 2017 à Goma a montré que beaucoup de territoires du Kasaï, certains territoires, sont maintenant dans une phase d'urgence. C'est-à-dire que la situation de sécurité alimentaire s'est dégradé terriblement. C'est pour la première fois que dans les Kasaï, on trouve des territoires en ce qu'on appelle phase 4, c'est-à-dire en une insécurité alimentaire d'urgence. Les cas de Tikapa, de Dibaye, de Dimbelenge, de Kabeye Kamwanga et tout ça. Et cela a conduit à ce qu'on organise une étude approfondie de la sécurité alimentaire au mois d'août dans les 5 provinces, donc démembrées. Et cette étude a démontré qu'il y a en tout 3 200 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire.
Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que cela implique également les enfants qui pourraient mourir de faim au Kasaï au cours des prochains mois.
On ne va pas dire que c'est seulement le phénomène Kamouna-Sapou qui a entraîné, mais il y a d'abord des causes structurelles. Comme vous le savez, il y a un grand recul de l'agriculture dans les Kasaï. Le Kasaï qui était considéré dans les temps comme un grenier agricole, mais aujourd'hui c'est l'inverse, vous savez. Le Kasaï s'approvisionne à Nyunzu et tout ça, donc à cause du recul de l'agriculture. Et il y a eu pratiquement aussi un attachement très prononcé vers l'activité minière, combiné à l'enclavement. Vous savez que les réseaux ferroviaires ne marchent pas. Le Kasaï est au milieu du pays, bloqué, il est obligé de dépendre maintenant des approvisionnements à partir des provinces voisines. Et aussi l'abandon de l'agriculture, c'est au fait une des motivations pour les agriculteurs. Les routes pour accéder et arriver à écouler la marchandise pour la production, c'est très difficile pour arriver au centre de consommation, surtout les centres urbains qui doivent beaucoup consommer.
Alors, comment le PAM répond-il à l'urgence alimentaire au Kasaï?
Dans un premier temps, comme vous le savez, on arrive pour assister, on apporte ce qu'on appelle une assistance aux populations les plus affectées, donc celles qui sont dans l'insécurité alimentaire sévère. Et on a identifié, à travers l'enquête approfondie des sécurités alimentaires, les zones, et dans ces zones là-bas, on apporte ce qu'on appelle un blanket feeding, donc une alimentation qui permet à tous ces ménages-là qui n'ont plus rien de trouver comment couvrir leurs besoins alimentaires journaliers. C'est ce qu'on fait dans la province du Kasaï, par exemple, dans la zone de santé de Kalonda Est, la zone de santé de Kamwecha. On le fait aussi dans la zone de santé de Tchikula. Maintenant, ça, c'est la première approche pour assister des ménages qui sont en insécurité alimentaire. Il y a aussi des populations, comme vous le savez, depuis longtemps, les Kasaï ont été affectés par la malnutrition. Et avant même le phénomène Kamouna-Sapou, le Kasaï était la province la plus affectée par la malnutrition. Et c'est comme ça que, pour ce qui est de la nutrition, on apporte aussi une alimentation supplémentaire généralisée à tous les enfants de 6 à 23 mois, et aux femmes enceintes et allaitantes dans certaines zones de santé qui ont été trouvées fortement affectées par l'insécurité alimentaire. Et nous apportons aussi une assistance liée au traitement de la malnutrition. S'il y a déjà des cas de malnutrition déclarés, on leur apporte un traitement nutritionnel approprié pour les cas de la malnutrition aiguë modérée chez les femmes enceintes et allaitantes, qui chez les enfants, cette fois-là, c'est de 6 à 5 à 9 mois.
À plus long terme, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à la crise alimentaire dans la région?
Pour arriver à résoudre de manière durable le problème de la faim et toutes ces questions alimentaires et nutritionnelles qui se posent dans les Kasaï, le PAM va déclencher un processus consultatif avec toutes les parties prenantes dans les Kasaï. Ça, c'est résoudre un problème de la faim. Ça n'inclut pas seulement les femmes, ça inclut beaucoup d'acteurs. Et il y aura une consultation dans toutes les provinces du pays et les Kasaï inclus pour qu'on arrive à une stratégie très consolidée où tout le monde apporte un soutien et en fonction de cette stratégie-là, les femmes apportera une contribution nécessaire pour l'amélioration de cette situation.
Monsieur Patrice Badiban, Radio Kapi, vous dit merci.
Merci.
On passe à l'actualité sportive de Radio Kapi, le rendez-vous de Nana Mbala. Bonsoir Nana.
Bonsoir Pascal Masirika, bonsoir mes sportifs. Premier tournoi qualificatif à la Coupe du Monde Basketball Chine 2019. Les Léopards messieurs sont arrivés à Luanda cet après-midi où ils vont participer au premier tournoi qualificatif à la phase finale de ce mondial. La délégation congolaise est composée de 19 personnes dont 12 athlètes. Kanishim Kongo nous en parle.
Deux tours de qualification sont organisés pour chaque continent. Le premier tour s'organise par un groupe de 4 équipes suivant un format de rencontre, un match aller-retour. Le jeu dans le groupe C, les Congolais vont tour à tour jouer contre les Angolais vendredi, puis les Égyptiens samedi et clôturer dimanche par le Marocain. À l'issue de ces rencontres, les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le second tour. Ce tour qui aura lieu en juin 2018 en Égypte s'organise en groupe de 6 équipes. Les 3 meilleures équipes d'un groupe du premier tour se rassemblent avec les 3 meilleurs d'un autre groupe. Pour la zone Afrique, les 2 premiers de chaque groupe plus le meilleur 3e seront qualifiés pour la 18e édition du mondial prévu du 31 août au 15 septembre 2019.
Football, championnat national division 1 dans la zone centre-sud. On a joué cet après-midi en match de la 3e journée au stade de la Kenya Lubumbashi. Lupopo a eu raison de l'AC Dibumba par 3 buts à 1. Et au même moment, US Chinkunku de Kananga joué contre Don Bosco de Lubumbashi. Score final 0 buts partout au stade de Jeune de Katoka. C'était en match de la 2e journée. Blaise Ndongala a assisté à ces matchs suivant son reportage.
Si la première mi-temps a été légèrement dominée par les clubs locaux du Chinkunku, la seconde a été très équilibrée. Le Chinkunku a obtenu 4 corners, alors que son adversaire du jour en a procuré 3. Les deux entraîneurs ont vidé leurs cartouches dans l'espoir de faire la différence au marquoir. Avec ce nul vierge des Orbi partout, le Chinkunku totalise 2 points en 2 sorties, alors que Don Bosco compte désormais 3 points en 3 matchs joués. Depuis le stade des jeunes de Katoka, Blaise Ndongala au 14 score.
La suite de ce championnat, c'est demain mercredi à Lubumbashi. 2e journée, Lubumbashi Sport matchera Océan Pacifique et au même moment au stade Tata Raphaël. Si à Kinshasa, Rangers se jouera Renaissance. En championnat local, sachez qu'on a joué également aujourd'hui au stade Matokeo de Butembo, 0-0 entre Real de Butembo et l'autre match, Real de Butembo qui a joué contre Kalamu 0-0, Butembo Sport contre Nouvelle Génération, 2-0 pour Butembo Sport. À Kinshasa, les Pefkin ont également joué cet après-midi pour le compte de la 10e journée au stade Tata Raphaël. Herbrousse a eu raison de GS Tiangou, 2-0 et GSK a battu système par 1-0, même score qui a sanctionné la rencontre B. Bélor, Sadaka 1-0 en faveur de Bélor.
Terminons par le taux d'échange indicatif de la Banque centrale du Congo. Notez que le dollar américain s'achète ce lundi à 1579 francs congolais et se vend à 1611 francs congolais. Ce journal est terminé. Avant de rendre l'antenne, je vous rappelle qu'Honor qui vous l'a cité d'Oïtia a recouvré sa quiétude après le soulèvement des habitants contre l'assassinat d'un élève hier soir. La dispersion au gaz lacrymogène par la police a coûté la vie à un manifestant. Grogne dans les établissements de l'EPSP au Kasaï oriental, la Chilengue précisément. Les enseignants réclament leur salaire du mois d'octobre. Et puis, le PAM tire la sonnette d'alarme. 250 000 enfants pourraient mourir de faim dans les prochains mois, provient le chargé de nutrition au sein de cet organisme en RDC. Patrice Badibanga parle d'une crise née du phénomène Kamuinasapu. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. J'adresse Sinfir Chandel, appelé Kipela Mondo et Noël Aluzitu qui m'ont accompagné.